RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Regardez la météo parce que là, vous allez être surpris. Ah. Il neige. Vous vous rendez compte? Il neige. Ah. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est joli. Les feuilles sont pleines de neige. La neige tombe et courbe les feuilles, enfin les branches, ouais. Et ça fait des petits tas de neige par terre. Que c'est beau. Oh. J'ai envie de sortir. Je vais vous laisser 5 minutes. Faut que j'aille voir ça. Non, non, je ne peux pas vous laisser. Non, non, non. Vous diriez, mais quoi, il nous fait une émission de poésie ou s'il se barre comme ça, il nous laisse tout seul pendant 5 minutes? Non, je reste avec vous, je vous promets. Bon, tant pis, j'irai après l'émission. Hein, ouais. Ouais, mais peut-être qu'elle sera déjà fondue parce qu'il y a le soleil qui vient d'arriver d'un seul coup. Regardez par la fenêtre, vous allez voir le soleil. Merde, il n'y a plus de neige. Oh, ça va trop vite, ça, non. Oh, vivement cet hiver, ça ira moins vite. Bon, allez, arrête tes conneries, Méliès. Alors, j'ai le livre, le dernier livre, je pense, de Jean-Claude Allard, qui est aussi un hydropathe, mais qui était un petit peu pas trop présent cet été, parce qu'il a un chalet dans les Pyrénées, et puis il jongle avec les marmottes, hein, quelques loups d'ailleurs. Ouais. Bon, peut-être ça va l'inspirer pour nous lire des poèmes à la rentrée, hein, parce que c'est bientôt la rentrée, hein. Eh oui. Alors, ils disent la rentrée des classes, mais c'est pas que la rentrée des classes. C'est aussi la rentrée des salariés, hein? Ben oui. Alors, la rentrée des retraités, non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Hein. Bon. Moi, ça fait quand même 20 ans que je suis en vacances, en campagne. J'étais en campagne, mais c'était à cause de Mélenchon que ça s'est arrêté, ouais. Il m'a traité de pouilleux en 2012, ouais. Hein. Et depuis, je mets de la Marie-Rose, et Marie-Rose, elle est drôlement contente, hein. Parce qu'en plus, Marie-Rose, c'était une de mes cousines du... C'est parce qu'elle est encore vivante, elle doit avoir 95 ans ou quelque chose comme ça maintenant. C'est une de mes cousines du nord de la France, de Dunkerque. Ah ouais. Bah, je l'ai vue malheureusement à l'enterrement de mon jeune frère qui s'est été enterré là-bas aussi. Et oui, c'est comme ça la vie. Bon. Alors, Jean-Claude Allard, il a écrit un bouquin, ça s'appelle « Contemplatif, le cœur battant. Poésie et récit poétique, pardon. » Et alors, il ose intituler son poème « À la poésie » et il l'adresse aux poètes. Alors, j'espère qu'il n'y a que les poètes qui vont l'écouter, là. Hein. Ceux qui ne sont pas poètes, là, ou celles qui ne sont pas poètes. Vous fermez le poste pendant au moins 45 secondes. Hein. Et puis, vous l'ouvrirez après pour les autres poèmes. D'accord ? Bon. À la poésie. Aux premières lueurs du jour, bonjour Saint-Rémy, respect sur ce sublime lever. Accoudé à ma table, à mots et à esquisses. Oui, parce qu'il est à la fois poète et peintre. Bon. Donc, à mots ouais, et à esquisses. Délicatesse matinale, aveuglément par le maître des rayons, me mettant en scène sous les sunlights. Je suis de bonne humeur avec Charles Baudelaire. Je me dégourcissant les doigts en croquant le poète, à l'encre de mes yeux et bien accompagné, par un plus jeune poète, par sa musique et sa voix plaintive. Attendrissante, Georges Solon. Ne voulons pas de mal au créateur, de mort de saison, et comme des vitrines et bien d'autres, je lui offre simplement cette tendre pensée pour l'interprétation parmi tant d'autres poèmes de Charles Baudelaire, L'ennemi, La mort joyeuse et bien d'autres fines fleurs. Voilà. Voilà. Bon, là, il aurait pu parler de Maurice Méliès comme poète, ou je sais pas, moi, Jean Boussu, ou Alain Bernard. Bon, non, il parle de Chelon et Baudelaire, merde alors. Je vais l'engueuler quand il va revenir de vacances. Ouais, non, mais ça va pas, ça. Pas déconner quand même. Faut penser aux amis quand même, hein. Et aux vivants surtout. Hein. C'est pas Charles Baudelaire qui va vivre de ses poèmes. Hein. C'est nous, les vivants. Ben oui. Alors tiens, pour la peine, on va l'écouter, Alphonse Allais. Enfin, avec la voix de Maurice Méliès, hein, bien sûr. La logique de Saint-Pierre. Oh, c'est pas, vous savez, bon, c'est dit Saint-Pierre, mais c'est pas si cubéni que ça. Hein. Bon. Après, la preuve, c'est que, après avoir cassé leur pipe et quitté le monde réel, bras dessous, au pas et par principe, deux pêcheurs ont pris le chemin du ciel. Le premier dit, je ne suis pas tranquille, au paradis pourrais-je y pénétrer? L'autre répondit, beau grand imbécile, dis comme moi, c'est le moyen d'entrer. Arrivé devant le contrôle, côté des billets de faveur, Le plus malin dit, la mine pas drôle. Ayez pitié d'un malheureux pêcheur. J'ai pêché. Je puis dire le contraire. Mais je fus marié. Je fus ergo puni. Pauvre vieux, entrez, dit Saint-Pierre. Votre purgatoire est fini. Alors le second dit, monsieur Saint-Pierre, puisque mon copain, j'ai des droits. Mon châtiment fut plus sévère, car je fus marié deux fois. Rendu libre par un premier veuvage, craignant de n'avoir pas assez souffert, j'ai retâté du mariage. Le paradis doit m'être ouvert. Saint-Pierre dit alors, il y a une nuance, hein, mais pour vous, quelle différence? Vous vous mariâtes deux fois. Vos désirs sont loin d'être légitimes. Ça ferait jaser dans les grands journaux. Le ciel est fait pour les victimes. Il n'est pas fait pour les fourneaux. À la parole, alors joignant le geste, le vénérable et saint portier, donc Saint-Pierre, d'un pain qui fut être indigeste, envoya l'intrus se fouiller. La morale de cette histoire, c'est que l'excès en tout est un défaut. Mes enfants, vous pouvez m'en croire. Faux du mariage, mais trop en faux. C'est écrit en 1901. Voilà. Hein. Alors ça, c'est du Alphonse Allais, mais bon, vous connaissez Alphonse Allais, hein, je vous ai déjà lu du Alphonse Allais plus d'une fois. Hein. Allez, on va écouter Bionic Man. Sound. Sound.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
redescend sur terre,
cesser de fuir, d'oublier,
vite à vie à notre manière.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
poste à liberté éphémère,
affronter la vie et ses sombres côtés,
comme dans ton imaginaire.
Le réveil sonne, j'aimerais t'en rêver encore quelques secondes. Malheureusement le temps personne ne me le donne. Je suis déjà en retard et je n'aime pas qu'on me gronde. Il va falloir que ma vitesse sorte de la norme. Tout ça parce que je suis un homme et que l'argent régit le monde. Je ne peux pas faire autrement que rentrer dans la ronde. Je n'ai pas choisi de naître à Babylone. Je m'efforce de vivre en constante méditation. Pour ma survie, jamais je n'abandonne. Je te l'ai déjà dit, mon totem c'est le lion. Même si la société nous conditionne, la liberté que je perds me sert à faire manger mes mômes.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
redescend sur terre,
cesser de fuir, d'oublier,
vite à vie à notre manière.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
poste à liberté éphémère,
affronter la vie et ses sombres côtés,
comme dans ton imaginaire.
Sache faire la part des choses entre rêve et réalité, l'un se nourrit de l'autre, l'inverse est à éviter. Est-ce que tu vis pour planer ou tu planes pour vivre? Est-ce que ton quotidien coule comme en feuillette un livre? Moi mon compte le fait est constamment agressé. L'économie humaine n'a de cesse de s'y infiltrer. J'ai tenté mille et mille et pas de colmater la brèche, boucher les issues, éviter les flèches. Mais j'ai dû me résigner, me rendre à l'évidence, souffler au pays des merveilles ou travailler en France. Être le héros de milliers d'aventures enchantées, ou se lever le matin à 6 heures pour aller bosser. Dragon, chevalier, héros de cinéma, n'ont jamais rempli mon frigo à la fin du mois. Mary Poppins n'a jamais payé mon loyer. Si je quitte ma planète, c'est pour mieux la retrouver.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
redescend sur terre,
cesser de fuir, d'oublier,
vite à vie à notre manière.
Il voudrait qu'on arrête de planer,
poste à liberté éphémère,
affronter la vie et ses sombres côtés.
Et voilà, et ça s'arrête comme ça, bah oui, bon, pourquoi pas après tout. Hein. Ils étaient pressés d'aller manger, ils ont dit, allez, on arrête. Hein. Il n'y a pas de chute. Vous voyez, des fois, il y a une chute, ça fait... Là, non. Bon, plaf. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez. Alors, notre ami Antonin Artaud, hein, l'ombilique des limbes, eh oui, suivi du pèse nerf. Ah, nerf. Je fais le F parce que c'est bon... parce que le nerf et le nerf, c'est pas la même chose. Hein. Troisième lettre de ménage. Depuis 5 jours, je ne vis plus à cause de toi. à cause de tes lettres stupides, de tes lettres de sexe et non d'esprit, de tes lettres remplies de réactions de sexe et non de raisonnement conscient, je suis à bout de nerfs, à bout de raison. Au lieu de me ménager, tu m'accables parce que tu n'es pas dans la vérité. Tu n'as jamais été dans la vérité. Tu m'as toujours jugé avec la sensibilité de ce qu'il y a de plus bas dans la femme. Tu refuses de mordre à aucune de mes raisons. Mais moi, je n'ai plus de raison. Je n'ai pas d'excuses à te faire. Je n'ai pas à discuter avec toi. Je connais ma vie et cela me suffit. Et au moment où je commence à rentrer dans ma vie, de plus en plus, tu me sapes. Tu recommences mes désespoirs. Plus je te donne de raisons d'espérer, de prendre patience, de me supporter, plus tu t'acharnes à me ravager, à me faire perdre les bénéfices de mes conquêtes, moins tu es indulgente à mes maux. Tu ne sais plus rien de l'esprit, tu ne sais rien de la maladie. Tu juges tout sur des apparences extérieures. Mais moi, je connais, n'est-ce pas, mon dedans. Et quand je te crie qu'il n'y a rien en moi, rien dans ce que fait ma personne, soit qui ne soit produit par l'existence d'un mal antérieur à moi-même, antérieur à ma volonté. Rien dans aucune de mes plus hideuses réactions qui ne vienne uniquement de la maladie et ne lui soit, dans quelque cas, que ce soit imputable. Tu en reviens à quelques-unes de tes misérables c'est du Antonin Artaud, hein, il était fou, hein, faut pas. Il est mort fou d'ailleurs, hein, à l'asile. Hein. Et alors, tu recommences le déballage de tes mauvaises raisons qui s'attachent à mes détails infimes de moi-même, qui me jugent par le petit côté. Mais quoi que j'ai pu faire de ma vie, n'est-ce pas, cela ne m'a pas empêché de repénétrer lentement dans mon être et de m'y installer chaque jour un peu plus. Dans cet être que la maladie m'avait enlevé et que les reflux de la vie restitueront morceau par morceau. Si tu ne savais à quoi je m'étais livré pour restreindre et supprimer les douleurs de cette séparation intolérable, tu supporterais mon déséquilibre, mes heurts, l'instabilité de mes humeurs, cet effondrement de ma personne physique, ces absences, ces écrasements. C'est parce que tu t'imagines qu'ils sont dus à l'emploi d'une substance dont l'idée seule emporte ton raisonnement, que tu m'accabes, que tu me menaces, que tu me jettes, moi, dans l'affolement, que tu saccages avec tes mains de colère la matière même de mon cerveau. Oui, tu me fais me buter contre moi-même. Chacune de tes lettres partage en deux mon esprit, me jette dans des impasses insensées, me cible de désespoir, de fureur. Je n'en puis plus, je te crie, assez, cesse de penser avec ton sexe, absorbe enfin la vie, toute la vie, ouvre-toi à la vie, vois les choses, vois-moi, abdique, et laisse un peu de la vie que la vie m'abandonne, se fasse étale en moi, devant moi, ne m'accable plus, assez. Alors là, il devait être sacrément malade pour écrire ça. Hein. Alors il y a une nana qui avait l'air de le poursuivre, et en plus avec son sexe, apparemment. Hein. Ben, si j'ai bien compris. Hein. Et vous, si vous avez pensé le contraire, vous me téléphonez. Hein. Et alors j'ai ce livre-là, et toutes les pages se décollent. Oh, ben, c'est du Antonin Artaud. Lui aussi, c'est complètement décollé. Allez. Alors, je reprends mon premier tome de Fleurs de Femme. Oh, il a été écrit il y a longtemps. Hein. Oh, attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. En 2003, vous vous rendez compte, il a 21 ans. Oh, vous vous rendez compte depuis le nombre de Fleurs de Femme qu'il y a ? Il y en a 5. Il y a 5 tomes. Hein. Ah. Alors j'avais mis en... Ce n'est pas une préface, c'est, vous savez, une introduction. Hein. Puis l'orage, puis le reste en pénétrant dans les rêves des hommes à grands coups de foudre et de tonnerre. Et puis une autre, parce que je ne suis jamais avare d'introduction. Hein. Son corps, pourvu de merveilleux mouvements juvéniles, faisait ressurgir l'enchantement d'un jeune rêve oublié. Oh, que c'est beau! Bon, allez, maintenant, on va passer au sujet principal. Ça s'appelle Écho. Et ce fut écrit en 2001, le 1er août 2001, à minuit 16. Alors, c'était certainement juste après un spectacle de Mimos, puisque ça m'a été inspiré par Mimos, un spectacle de Mimos. La compagnie AN, c'était des Japonaises. Écho. Il l'habilla comme on déshabille le ciel, en mettant des nuages à sa taille, l'orage, le vent et les éclairs de couleurs différentes. L'espace, enfin nu, recherchait l'habit d'une lumière sans pouvoir se cacher du soleil qui protégeait ce ciel vierge de menaces. La météo venait d'être balayée par ce ciel arrogant et éternellement bleu. Puis vint la pluie de larmes dans les yeux de chaque terrien qui pleurait et suppliait le mauvais temps de revenir. Le ciel demanda au jeune homme qui avait paré la femme de lui rendre ses effets. Quels effets ? Demanda l'amant. Je ne peux plus en avoir puisque la pluie, l'orage, le vent, la neige habillent l'amour de ma vie avec la danse et le chant. Il fait encore beau. Voilà. C'est gentillet, hein ? C'est gentillet. Je vous lis pas la suite du bouquin parce que là, vous allez tout de suite appeler la police. Allez, tiens, le gospel. On va faire du gospel. Allez, go. Get on board. Better get your ticket now, my Lordy boy. Wow, 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 wow. Gospel train is coming. You better get your business right. You better set your house in order, friends. You know the train gonna be here. Ah, Lord. Don't you hear the whistle? Wah, wah. Hear the bells a tolling. Don't you hear the engine exhausting fumes? You know the train gonna be here tonight. Ah, Lord. Now before she enters the pearly gates of heaven, can't you imagine that you can hear this train roll? She blows the horn, Lord, so low. You know the train gonna be here tonight. Then she comes running. J'ai l'impression qu'à la fin de la chanson, c'est un chien qui faisait « wap wap ». Alors, Jean-Joseph Sansfourche, il est un artiste de l'art brut, enfin il était, mais il a quand même écrit des poèmes aussi. Et je vais vous lire un de ses poèmes, ça s'appelle « Une bouche ». Deux yeux pour voir, deux oreilles pour entendre, deux bras pour enlacer, deux jambes pour cavaler. Mais pourquoi une seule bouche ? Une seule bouche pour manger, boire, souffler dans un ballon qui partira aux cieux, faire la nique au bon Dieu. Une seule bouche pour déguster mon vin, pour cracher mon venin. Pour vous, madame, cherchez votre âme, une seule bouche, pour serrer entre mes dents le fil qui tirera le train, toucher, rôter, baver, hurler, rire, pleurer, faire la grimace. Une seule bouche pour tout ça. Bon, dis donc. Alors, je vais vous en lire un autre de lui, parce qu'ils sont un peu courts. Ma naissance. Certains naissent dans le ruisseau. Moi, j'ai débarqué dans un évier. C'est étrange. Pourtant, c'est vrai. Sur l'eau du ruisseau, navigue vers la mer. Les enfants, des bateaux, l'évier réceptacle. Des restes culinaires n'autorisent pas l'escapade. Donc, par soir d'orage, faillis dans l'évier. L'engorgement des tuyaux fait remonter les eaux sales. Et moi qui nage pour ne pas couler. Par un étrange phénomène, les vilaines odeurs à mes narines sont parfums suaves. Ouah, c'est dégueulasse. Quelques fleurs d'égout délicates, attention, celle qui deviendra ma mère me saisit. Entre le pouce et l'index, me sauve de la noyade et me dépose sur son sein virginal. La brave femme crie « Un enfant m'est donné !» Ainsi se répétait le miracle de l'Immaculée Conception. Il était un peu comme Antonin Artaud à un moment donné, lui. Allez donc, incroyable. Incroyable, mais vrai. Hein. Alors, je ne vous ai pas parlé du journal des hydropathes d'hier soir. Hein. Bon. Et alors, je vais vous lire un poème. J'ai fait toute une série sur des poètes nord-africains. Hein. Alors, Kamal Zerdoumi. Alors, Kamal Zerdoumi est né à Casablanca en 1953. Après y avoir obtenu le baccalauréat au lycée Lyautey, il entreprend des études de lettres françaises à l'Université de Lille, obtient la maîtrise, dont un DEA S Lettres modernes. Pendant de nombreuses années, il a exercé le métier d'enseignant du français au Maroc et accessoirement en France. L'exil et la mémoire est son second recueil publié. L'exil et la mémoire. L'exil et la mémoire, le poison et son antidote sont à l'origine de ce recueil. Les morts, chers aux poètes, quittent leur néant le temps d'un tutoiement, témoignage de leur présence et de leur éternité terrestre. L'enfance, sous l'effet du travail mémorial, renoue avec sa magie, en particulier dans les évocations d'amitié, du premier émoi amoureux ou du rapport au père en suturant le temps. Certains lieux ou objets disent l'émotion, la douleur, l'humanité et la révolte. Un simple prénom devient emblématique d'une culture ou un poète testament revendique l'appartenance à un peuple et une terre. À chaque fois, le poète jette un pont entre la souffrance provoquée par l'éloignement et le passé revisité et ressuscité. L'exilé, ou le lecteur que la vie n'a pas contraint à perdre beaucoup de terre, comme l'a écrit le poète, trouvons-nous en nous ces textes dont la pointe d'orgue est une hymne à l'antidote suprême, l'amour, espérance et interrogation. Voilà. Alors, ça, c'est presque, on va dire, une préface, au final. Alors, par contre, il a écrit un poème, ce qu'il appelait Paris, ville-lumière, où t'ont de nouveau plongé dans le noir comme aux heures les plus sombres de ton histoire. Toi, emblème de la gaieté, vivant poème meurtri par la mort de tes citadins innocents. Sache que les fous de Dieu, qui au divertissement préfèrent le bain de sang, ne briseront pas le pacte fraternel. Ô Paris, la rebelle, faite de l'heureux mélange de la liberté des idéaux et des confessions pour laquelle vivre ensemble est une passion. Donc vous voyez qu'il a, bon, apparemment il n'est pas tout à fait d'accord avec les religions ou avec certaines bandes de son pays. Hein. Bon, voilà. Et j'en ai d'autres, mais je ne vais pas tout vous lire aujourd'hui, hein, quand même. On va échelonner un peu. Est-ce que vous avez déjà lu, mais il y a très longtemps, L'atroce agonie d'une marguerite? Ce fut écrit, ben, on va voir la date. Hein. En 2002, ça veut dire que bon, hein, ça fait encore 21 ans. Hein. L'atroce agonie de la marguerite. Aïe, aïe! Quel est le con qui vient de m'arracher à ma terre? Merde, c'est une gonzesse, la vache! Elle me regarde d'un drôle d'air en plus. Aïe, elle m'arrache un pétale en me disant « je t'aime ». Mais elle est dingue, celle-là. Elle ne me connaît pas. Et elle a déjà des sentiments pour moi. Tiens, j'avais pas remarqué le petit mec poilu à son côté. La voilà qui recommence. Un deuxième avec un peu. C'est quoi ce langage? Elle s'adresse à qui? À moi ou à son mec? Encore. Et maintenant, c'est beaucoup. De quoi? Elle a envie de quoi? De plus, en plus hermétique, ce code. Passionnément. Elle est dingue, cette fille. Elle est en train de me charcuter Et en plus, ils ne sont pas beaux. On dirait des batraciens avec des yeux de merlan frit. Merde alors, encore, ils me dépriment comme un noix, bonne affaire de gras. Stop, arrêtez les petits cons. On n'est pas en période de mue. La voilà qu'elle recommence avec pas du tout. Pas du tout de quoi, de me déplumer. Et voilà qu'elle lui balance à ce petit con à la folie. Ça, pour être fou, c'est ben vrai. Voilà que je parle comme la mère Denis. Qu'est-ce qu'elle vient foutre dans cette prose super libre. Ah, ah. Alors, tu te casses la gonzesse maintenant que le mal est fait avec ton petit mec? Laisse-moi agonir sur le bord du chemin à côté de mes copines qui ont été épargnées. Pas du tout. Quoi? Elle n'aime pas du tout son petit con de mec? Je comprends plus rien à ce jeu débile répétitif. Et le voilà qui recommence avec un peu de plume qui me reste sur le dos. Je t'aime, mais tu l'as déjà dit un peu, c'est déjà trop. Beaucoup, c'est pas assez. Passionnement, c'est quoi ce truc? Pas du tout. Enfin, elle va me laisser tranquille. Je ne sais pas ce qu'elle veut, cette nana. J'ai plus de plume, que le cœur pour pleurer. Et en plus, elle me jette comme une vulgaire fleur fanée. Cette jeunesse, je ne sais plus quoi faire pour faire croire qu'ils s'aiment alors que ce n'est pas vrai. J'espère que la prochaine fois, ils feront cela avec une fleur de cactus, ces cons de gosses. Maintenant que j'agonise tout en compte fait, j'aurais préféré finir comme tout ce monde végétal, sous la coupe d'un rotophile en nylon 100% crêpe de Chine. Voilà. Vous voyez, à chaque fois que vous allez cueillir une marguerite, les conneries que vous faites. Vous allez vous en rappeler maintenant, vous n'avez plus les cueillir les marguerites. Vous les laisserez sur pied. Hein? Bon. C'est bien beau de faire ça. D'abord, quand on aime quelqu'un, on n'est pas obligé de lui faire toutes ces salamèques. Hein? Vous le prenez par la tête, vous lui roulez un patin. Et là, il saura que vous l'aimez, ou elle saura qu'elle vous aime. Hein? C'est quand même mieux que d'arracher une marguerite et de la déplumer. Hein? Bon, hein? Et puis en plus, vous vous rendez compte, si vous faites ça juste à l'arrivée de l'automne, où il y a encore des fleurs, il va commencer à faire froid, et vous l'avez complètement déshabillée, elle est toute nue. Mais elle va geler. Elle va avoir un cœur gelé, la pauvre bête. La pauvre fleur. Non mais, faites attention à ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, hein, si vous le faites. Moi, je ne l'ai jamais fait. Ouais, parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire à une gonzesse. Bon, il reste 2 minutes, alors. Est-ce qu'on aurait le temps de passer? Non. On ne peut pas passer une butterfly, non. Alors, ben, je vais vous lire un petit poème, hein, comme ça fera les 2 minutes. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous lire? Je pourrais peut-être vous lire un poème, hein, moi. Hein. Ah oui, progéniture, projet qui dure. Ça fut écrit en 2007. Pour toi, j'avalerai la pilule du dernier jour. Puis je tremperai ma langue dans tes cendres, avec comme mission d'en avoir fini pour mon premier jour sur terre. Mais, avant ce partage dans l'ailleurs, j'enfanterai des chabins blancs et des métis crépus, afin de refaire un monde coloré à notre image. J'irai revisiter mes fantasmes africains et haïtiens pour enfin en faire des réalités bien vivantes. Je prendrai l'autobus de Bobo pour y déposer un copyright en multitude, le droit d'aimer. Puis j'irai jusqu'à emprunter la route du canapé vert à Port-au-Prince pour y déposer mon savoir d'aimer dans le creux de ses mains. Le chien créole aboiera à mon passage comme pour me donner encore raison de l'aimer. Et puis enfin, ma progéniture comportait un bel albinos. Alors, j'aurais rempli ma mission, noir et blanc, black and white, à l'unisson. Le négroïde et l'aquilin, le crépus et le repu, le plus vieux et l'ancien, le coco et le quinquina, et l'amour de son prochain. Vélo à pédalier au rythme d'un souk amélioré dans une Afrique acoustique, sans le palu, pas vraiment livré. Les cafés-laits de coco iront à l'école aux autodidactes, comme celles qui donnent de la passion et du désir d'aimer. J'irai jusqu'à contrôler les naissances afin de planifier une vraie paix sur cette planète, encore prête à se faire baiser par n'importe qui sur son flanc restait érotique. Les petits iront comme de jeunes apôtres verser des larmes de sagesse partout où le ciel sera sombre afin de fertiliser l'amour et la solidarité de cette belle planète déjà gâtée. Voilà, on va terminer là-dessus. Hein, gâtée. Bon, et Jaco, tu ne fais pas me gâter, tu vas pas me gâter les gâteaux. Hein. Tu fais des gâteaux qui ne sont pas gâtés. Hein, d'accord? Allez, bise à tous et à toutes.